Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. Les éditions du CERF, en coédition avec RMN, Réunion des musées nationaux, les éditions du CERF ont édité, et Canal Académie est ravie de se faire l'écho de cette magnifique édition, l'ouvrage intitulé « La Bible de Jérusalem, 20 siècles d'art ». J'ai le plaisir d'accueillir devant les micros de Canal Académie Isabelle Saint-Martin. Isabelle Saint-Martin, bonjour.
Bonjour.
Isabelle Saint-Martin, vous êtes spécialiste de l'iconographie chrétienne en Occident de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Et vous êtes actuellement directrice adjointe de l'IESR, c'est-à-dire l'Institut européen de sciences des religions. Cet institut a son siège social où, Isabelle Saint-Martin? Et quelques mots sur cet Institut européen de sciences des religions. Il a été créé quand? Quelle est sa vocation? Quelles sont vos responsabilités en son sein?
Merci. C'est une vaste question qui n'a pas de lien direct avec mon activité dans l'apparition de la Bible 20 siècles d'art, mais des liens peut-être indirects. L'Institut européen en sciences des religions a été créé à la suite du rapport de Régis Debré sur l'enseignement des faits religieux à l'école laïque, au sein de l'école pratique des hautes études, pour faire un pont entre la recherche savante et la diffusion vers un plus large public et pour participer à la formation des enseignants sur les questions ayant trait aux faits religieux, dans une approche laïque bien sûr. Alors, les activités de cet institut sont très variées, touchent à tous les domaines religieux existants ou presque, et on organise à la demande des rectorats, des IUFM, à la demande aussi d'autres secteurs de la société, des formations sur les faits religieux pour une meilleure prise en compte de ces questions dans le monde contemporain.
Très bien, mais uniquement au niveau du monde de l'enseignement et de l'éducation où ça touche tous les domaines?
Alors, notre cœur d'activité a démarré sur l'enseignement, mais nous répondons aussi à des formations dans le domaine de la santé, des affaires sociales, de la justice. Nous travaillons avec ceux qui en expriment le besoin et qui ont ce besoin de formation et nous montons des propositions sur mesure, ad hoc, à destination de nos partenaires.
Isabelle Saint-Martin, comment, pourquoi, expliquez-nous, avez-vous été amenée à vivre l'aventure de l'édition La Bible de Jérusalem, 20 siècles d'art, parue aux éditions du CERF, en coédition avec RMN, c'est-à-dire la Réunion des musées nationaux? Expliquez-nous.
Il se trouve que je suis donc historienne de l'art à l'École pratique des hautes études, et quand Jean-François Colosimo, qui a été à l'initiative de ce projet de coédition CERF et Réunion des musées nationaux, m'a demandé si je voulais bien y participer, j'étais bien sûr tout à fait intéressée, parce qu'il s'agit d'une entreprise qui est à la fois très respectueuse du texte et qui en même temps voulait croiser ça avec des œuvres d'art produites en contexte sacré et profane, en traitant aussi tout cet apport des sources bibliques dans l'histoire de l'art occidental, majoritairement pour les exemples que nous avons réunis ici, en tant que, en fait, sorte de patrimoine de l'humanité, pour reprendre cette grande expression de William Blake, si souvent citée, la Bible, grand code de l'art, et qui donne un résultat qui est à la fois passionnant, je pense, pour ceux qui veulent aborder cet ouvrage dans une perspective croyante, mais aussi pour ceux qui veulent tout simplement découvrir ces textes qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent mal, et ces œuvres d'art qui tirent leurs sources d'une manière ou d'une autre, en les respectant ou en les déformant ou en les interprétant selon le souhait de chaque artiste, qui tirent leurs sources de ces récits bibliques.
Isabelle Saint-Martin, il s'agit donc du texte intégral de la Bible, mais dites-nous, dans quelle traduction?
Oui, donc c'est la traduction donc de l'École biblique de Jérusalem, hein, la célèbre traduction de la Bible de Jérusalem, qui est non seulement en texte intégral, mais dans l'édition avec les notes et les introductions. Et ça, c'est très précieux parce que c'est un travail qui est magnifique, qui a été fait par des grands spécialistes. Et je crois que même un large public doit avoir accès à ces notes et à ces commentaires. Et ce qui nous a intéressé, Grégoire Aslanov et moi-même qui avons participé avec Jean-François Colosimo aux commentaires de cette iconographie, l'iconographie, c'est de travailler à un projet qui ne résume pas les textes bibliques à côté d'une œuvre d'art ou d'une image. On ne cherchait pas à faire un album de belles images avec un petit résumé qui vous dispense de retourner au texte et de lire la Bible. Moi, en tout cas, ça ne m'aurait pas intéressée. Donc, on était très heureux d'avoir l'occasion, évidemment, ça donne un très gros volume, forcément plus coûteux et plus lourd, de confronter le texte dans son intégrité avec des œuvres qui s'en inspirent.
Donc, c'est bien cela, la spécificité de cette énième édition de la Bible, en quelques mots, si vous aviez à résumer cette spécificité.
Oui, alors énième édition, bon, c'est toujours l'édition de la Bible de Jérusalem, mais confrontée à 20 siècles d'art. J'aime bien le titre qui a été choisi par les éditeurs, je ne m'en suis pas du tout occupée, parce que je trouve que dans sa grande simplicité, il donne bien l'ambition du projet. Ce n'est pas une Bible illustrée ou une illustration pour la Bible, c'est le rapprochement entre ce grand texte de la Bible et 20 siècles d'art inspiré de ces domaines, de ces sujets.
Est-ce qu'il s'agit uniquement d'œuvres d'art, de peintures occidentales ?
Il n'y a pas que des peintures. Nous avons souhaité justement varier les supports, varier les types d'œuvres. Et cela va peut-être, la plus ancienne, ça doit être une statuette du Bon Pasteur qui date du 3e, 4e siècle. On a aussi le mausolée de Galla Placidia à Ravenne, jusqu'à des œuvres très contemporaines qui se trouvent à Beaubourg, en passant par des émaux, des vitraux, des coffrets, des petites statuettes, un bouclier orné, tous les supports artistiques. Alors bien sûr, la peinture est très présente, mais aussi des dessins, des gravures, des esquisses, tous les supports artistiques qui ont été habités par des œuvres inspirées de ces sujets bibliques.
Donc on peut parler des œuvres de l'Antiquité à nos jours, de toutes les écoles et de tous les styles.
Voilà, absolument. On a essayé aussi, c'est bien que vous le mentionniez, de respecter la diversité des styles. Donc de varier selon les écoles artistiques. Alors bien sûr, la Réunion des musées nationaux a un très large éventail de tous les musées français, mais elle a aussi des œuvres des musées allemands, anglais, espagnols. Et ça nous a permis d'avoir comme ça une bonne diversité des écoles, des interprétations, parce que la diversité des styles, c'est une histoire de la réception, c'est une histoire du goût, c'est la façon dont à chaque époque, les artistes ont lu et interprété ces sujets biblique et traduit dans des formes et des styles qui leur étaient propres.
Alors, vous avez mentionné tout à l'heure vos collaborateurs dans cette grande aventure. Il s'agit de Grégoire Aslanov, qui est ingénieur en histoire de l'art byzantin au CNRS. Il est spécialiste de l'iconographie chrétienne antique et médiévale. De Jean-François Colosimo, directeur général de CNRS Éditions. Il enseigne depuis 1990 la philosophie et la patrologie à l'Institut Saint-Serge de Paris. Alors, comment la répartition des tâches s'est-elle effectuée entre vous trois, Isabelle Saint-Martin ?
Alors, Jean-François Colosimo était à l'initiative du projet. Il a dirigé notre petite équipe et les choix qui ont été faits en concertation sur les thèmes iconographiques. Et avec Grégoire Aslanov, on s'est grosso modo réparti le travail en donc l'Antiquité, Moyen-Âge pour lui, de la Renaissance à nos jours pour moi, mais bon, de façon assez souple, en s'échangeant parfois des notices quand on avait envie de faire telle ou telle œuvre. Ça s'est passé de façon très agréable et dans une équipe stimulante.
Nous allons maintenant, Isabelle Saint-Martin, vous suivre dans la description de quelques exemples du choix de ces 400 œuvres d'art, de la peinture, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, des icônes, pourrait-on dire, jusqu'à Salvador Dali. Nous vous écoutons.
Nous avons essayé de varier des œuvres extrêmement connues qu'on s'attend à trouver, qu'on a envie de trouver, et c'est bien naturel. On a en tête quelques grandes images qu'on a envie de reconfronter avec ce texte, et puis des œuvres un petit peu moins connues, voire très peu connues, trop délaissées peut-être, qu'on a rapprochées aussi de ce grand ensemble. Au total, selon l'expression de Jean-François Colosimo, en s'inspirant du beau thème de Malraux, un musée imaginaire de la Bible. Alors, c'était une grande ambition, bon, qu'il faut ensuite confronter à la réalité, mais qui permet de commenter en images, de gloser en images autour du texte et de voir comment les artistes interprètent ce texte. Parce que une mise en image, une illustration, le terme illustration est un peu appauvrissant parce qu'on lui donne dans le vocabulaire courant un sens très plat.
Réducteur.
Un sens très réducteur. Une illustration, c'est toujours un choix, c'est toujours une interprétation, c'est une lecture. Et ça nous donne une idée de la réception du texte, de sa compréhension à certaines époques, dans certaines formes stylistiques. Alors par exemple, la première œuvre par laquelle on ouvre ces trois gros volumes, c'est une référence extrêmement connue, incontournable d'une certaine manière, la chapelle Sixtine. Nous n'avons pas repris le geste de la création d'Adam, mais la création des astres. Et dans ce célèbre décor, Michel-Ange met en scène les phases de la création ordonnée par les gestes majestueux, une silhouette vigoureuse avec une puissante musculature d'un créateur à longue barbe blanche. Alors, le lecteur est à la fois familier de cette représentation, mais en même temps, il peut s'interroger. Est-ce que ça a toujours été représenté comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de gênant à braver l'interdit du décalogue pour figurer ce créateur de façon si anthropomorphe et ce vieillard vénérable inspiré de l'Ancien des Jours qui prend ici une allure quasi jupitérienne? Et en feuilletant la Bible, il va trouver quelques pages plus loin, par exemple, toujours dans le Pentateuque, mais cette fois-ci dans le livre de l'Exode, pour le buisson ardent, nous avons une illustration beaucoup plus ancienne du psautier d'Ingeborg de Danemark, début du XIIIe siècle. Et là, dans cette enluminure sur parchemin qui représente deux épisodes forts de l'histoire de Moïse, sa vocation sur le mont Horeb et le don de la loi, eh bien, on voit que dans l'illustration du buisson ardent, on voit cet arbre foisonnant qui s'ouvre et à l'intérieur apparaît une figure jeune, nimbée avec un nimbe cruciforme et on reconnaît la figuration habituelle du Christ dans l'art médiéval. Alors, cette façon de représenter des premiers chrétiens jusqu'à l'art médiéval respecte l'interdit du décalogue, l'interdit de la figuration du Seigneur en choisissant le Christ comme le visible du Père. Selon les mots d'Irénée et du prologue de Jean, le Verbe s'est fait chair, le Christ visible du Père peut être représenté. Donc la confrontation de ces œuvres de différentes époques, et puis les commentaires que nous avons mis qui précisent ces évolutions historiques, permet de découvrir visuellement cette évolution de la réception et la place différente, la façon différente de représenter cet irreprésentable de la divinité, du Père, du Seigneur. Alors, progressivement, donc, vers les 11e, 12e siècles, la figuration du Père s'affranchit de cette représentation christique et s'autonomise sous la forme du vieillard vénérable qu'on vient de voir. Si l'on suit toujours l'histoire de Moïse, que l'on retrouve dans l'Exode, le Lévitique, on le voit représenté, là nous avons choisi Moïse et les tables de la loi de Philippe de Champaigne, une très belle œuvre dont l'attribution a été un peu discutée mais qui est magnifique. Et on voit Moïse qui présente ses 10 paroles au peuple et qui les désigne des 3 doigts. Et le texte est peint de façon très précise sur la toile, si bien qu'on peut le lire et voir que le geste de Moïse désigne l'interdit « Vous ne ferez point d'idole ni d'image taillée ». La mise en scène de l'œuvre explique le rapport que le fidèle doit avoir à ce tableau. Alors, cette représentation de Moïse, c'est amusant, on voit les petites pointes de lumière qui émergent au-dessus de sa tête. Philippe de Champaigne le traite avec beaucoup de discrétion. Un peu plus loin, on trouve le célèbre Moïse de Michel-Ange où, vous le savez, les cornes sont représentées de façon très figurative et sculptée. Et ces fameuses cornes de Moïse, elles ont fait couler beaucoup d'encre. On a dit que c'était une mauvaise traduction de la Vulgate. C'est pas tout à fait ça. En fait, ça renvoie à un terme hébreu ancien, Keren, qui voulait dire aussi corne et qui signifiait la puissance qui émane de la figure de Moïse après cette rencontre avec le Tout-Puissant. Et donc, la traduction de la Vulgate qui reprend le terme corne a donné lieu ensuite à cette figuration un petit peu naïve, alors que c'était l'idée de la puissance et de la majesté qu'il fallait en retirer. Les artistes ont souvent hésité entre les types de représentations et par exemple là chez Champaigne ou quand on le verra dans d'autres exemples avec Chagall, on voit vraiment bien que c'est ce rayon lumineux, cette émanation de la puissance. Pour prendre des exemples également dans le Nouveau Testament et qui font écho d'une certaine manière à ce récit de Moïse et de la fuite en Égypte, prenons le repos pendant la fuite en Égypte du Caravage. Le récit de la fuite en Égypte, c'est un lieu de refuge habituel, l'Égypte, dans la Bible. Et ce récit établit un parallèle entre l'enfance de Jésus et le destin du peuple hébreu. Et il permet que s'accomplisse la prophétie d'Égypte, j'ai appelé mon fils, Matthieu 2,15. Dans ce tableau, l'évocation pittoresque de la Sainte Famille s'enfuyant sur un âne, qui a souvent inspiré les artistes, est traité ici de façon originale par le Caravage qui s'attache à un moment de repos, à une pause, à un moment suspendu dans le temps, bercé par une musique céleste. La simplicité et le réalisme de la représentation de cette famille assoupie contraste avec l'irruption surnaturelle de l'ange au premier plan. Pourtant, cet être spirituel est saisi dans toute sa beauté charnelle. La blancheur de l'étoffe volante qui lui ceint les reins fait ressortir les nuances sombres de ses ailes, presque noires en fait quand on les voit sur la reproduction. L'ange semble se confondre avec l'arbre à l'imposant feuillage qui divise la scène en deux. Et sur la gauche, Joseph, très attentif, un petit peu concentré, naïf dans sa représentation, tient la partition. À ses pieds, le baluchon du voyageur, et derrière lui, on voit l'âne qui occupe tout l'espace. Son œil, d'un grand effet de réel, contemple avec placidité la scène. Le sol aride est couvert de cailloux, tandis qu'à droite, en contraste en quelque sorte, dans un geste de tendresse, tête contre tête, la mère et l'enfant baignent dans une lumière dorée qui évoque les atmosphères vénitiennes. Et du côté du sauveur, à droite, la perspective s'ouvre. On voit apparaître un plan d'eau, des plantes grasses, mais aussi des épines annonciatrices peut-être de la passion, de la suite du récit. Et on voit comment ce traitement d'une scène qui paraît toute simple, ce moment de repos vu par le Caravage, est déjà une lecture et une interprétation de cette aube nouvelle d'un temps nouveau inauguré par la venue du Sauveur. Alors on a souvent l'impression que les grands thèmes de la Bible ont particulièrement inspiré les artistes, disons jusqu'à la fin du XVIIe, après le Concile de Trente, le XVIIIe encore, etc. Mais qu'à partir du XIXe, XXe, ces thèmes disparaissent de l'inspiration artistique. Et ça, c'est une idée qui doit vraiment être largement nuancée. Tout le XIXe siècle, de nombreuses réflexions artistiques ont essayé de repenser un idéal de l'art chrétien ou une manière différente et plus originale de traiter ces sujets si souvent reproduits et traités par les très grands artistes. Et les peintres ont toujours cherché à se mesurer à ces grands sujets. Alors j'en donne un exemple avec un artiste naturaliste suisse, Eugène Burnand. C'est un tableau qui se trouve au musée d'Orsay. Les disciples Pierre et Jean courant au sépulcre le matin de la résurrection. Ce peintre naturaliste s'était fait connaître surtout pour des paysages, des scènes de la nature, des scènes de la vie quotidienne. Mais de culture protestante, il est passionné par les écritures et justement, il cherche à renouveler ce genre de la peinture religieuse. Et il applique son attachement à la peinture d'après nature et aussi un très grand intérêt qu'il avait pour la physiognomonie et l'étude des caractères. Il applique toute cette passion à choisir très précisément le moment et le traitement des sujets. Et donc pour les disciples courant au sépulcre, il cherche à saisir l'instant où la lumière matinale est la plus vive. On sait qu'il a fait beaucoup d'essais, qu'il a cherché vraiment la lumière la plus saisissante pour s'attacher au réalisme atmosphérique et donner à voir cette aube d'un monde nouveau dont il tente de capter l'espérance dans la prunelle de ses disciples. Alors, il a suivi la tradition iconographique parce que Jean est représenté plus jeune, Pierre plus âgé, ridé, les cheveux gris, une silhouette plus fruste. Et il les montre, il les cadre à mi-corps dans un mouvement de dynamique très puissant, tous deux tendus vers un horizon hors cadre, ce qui contribue encore à accentuer cet effet de mouvement. On se sent vraiment saisi par leur élan, à leur suite, à cette découverte du matin de la résurrection. C'est une œuvre qui a été très appréciée à l'époque et achetée par l'État français pour le musée du Luxembourg. Là, on est tout à fait à la fin du XIXe siècle. Nous avons pris aussi des exemples chez les pré-raphaélites. Il y a un très, très beau triptyque de Ruth, l'histoire de Ruth, par un pré-raphaélite tardif, Rook, qui se trouve à la National Gallery, et qui traite l'histoire de Ruth, ce joli petit récit, en trois panneaux. Alors, le panneau central est consacré à l'épisode de Ruth glanant, qui est le plus célèbre, le plus fréquemment représenté et traité par les artistes. On en a beaucoup d'exemples en tête. Mais nous avons choisi de reproduire le dernier panneau qui montre Noémie, la belle-mère de Ruth, berçant dans ses bras Obed, le fils de Ruth et Boaz, qui sera l'ancêtre de David. Et la scène se passe sous un cep de vigne. Et on voit bien que l'artiste qui relie ces récits de la Bible, de l'Ancien Testament pour les chrétiens, lui de culture chrétienne, les relie en y voyant déjà la lignée messianique et en mettant en évidence dans cette lignée de Ruth, la Moabite et puis d'Obed, l'annonce du Sauveur sous le cep de vigne. Donc les artistes interprètent et ils donnent à leur manière une lecture qui croise les lectures théologiques, qui croise aussi, qui mêle le profane et le sacré dans toutes les évocations de Suzanne, d'Esther, du livre de Daniel, de tous ces récits bibliques, parce qu'on trouve tout dans la Bible. On trouve les combats, la violence, la sainteté, l'humilité, l'orgueil, toutes les passions sont représentées et ça a donné évidemment libre cours à l'imagination des artistes à travers les siècles. Alors à travers les siècles, aujourd'hui, qu'en est-il ? C'est vrai qu'on peut avoir l'impression que pour le très contemporain et notamment pour la partie du Nouveau Testament, la figure qui va dominer et finalement éclipser presque les autres sujets, c'est le Christ en croix. Le thème de la crucifixion est si présent dans le monde contemporain, dans les représentations contemporaines, on aurait pu en multiplier les exemples, qu'on a l'impression que les autres sujets s'effacent un petit peu. On a choisi de remettre la très célèbre crucifixion de Picasso parce qu'elle est très intéressante à regarder d'un peu plus près. Et puis, on l'a bien entendu accompagnée puisque ce thème est présent dans les quatre évangiles, d'autres crucifixions qui sont plus anciennes et qui permettent de suivre là aussi l'évolution du thème à travers les siècles, la façon de le représenter. Pour citer une œuvre très contemporaine, peut-être une des plus récentes, je crois qu'on en a deux qui sont postérieures aux années 2000. Il y a le Garouste, l'Ânesse de Balaam, qui se trouve au Centre Pompidou à Beaubourg. Et puis une qui est assez originale, qui est peut-être moins directement biblique, mais qui donnait un effet de confrontation très intéressant. C'est une Vanité d'Anne et Patrick Poirier, qui sont deux artistes nés en 1942, qui se sont interrogés sur les thèmes classiques de la méditation, du mépris des biens de ce monde, du caractère fugitif de l'abondance et des richesses, avec des interrogations sur la mémoire et le temps qui donnent un cheminement artistique très original aujourd'hui. Et ils ont fait en 2002 une œuvre constituée de billets de banque qui sont broyés, découpés à la moulinette, puis collés sur la toile. Alors cette œuvre pourrait passer pour une pure provocation, mais en fait, à l'intérieur de l'œuvre, il y a des zones plus claires qui apparaissent et se détachent en zones plus claires, en formes plus claires, les lettres qui forment le mot « vanitas », comme une sorte de souffle de buée qui apparaîtrait à la surface du tableau. Et je trouve ça une très belle idée parce que lorsqu'on revient au mot hébreu qui signifie « vanité », le sens premier c'est « buée », « buée de buée ». Et donc cette idée de la nature illusoire des biens matériels, du caractère fugitif des biens de ce monde, matérialisé par ces billets de banque dématérialisés en quelque sorte, est une façon très originale de revenir sur ce thème ancien de la vanité. Alors, on a également, quelques pages avance dans le Qohélète, nous avons également une très belle vanité classique de Philippe de Champaigne, très originale aussi d'ailleurs, parce que Champaigne n'a pas souvent traité le sujet, et on a ce crâne entre une tulipe dont une feuille est déjà en train de choir et un sablier signe du temps qui s'écoule, qui nous invite à méditer sur vanité des vanités, tout est vanité.
Isabelle Saint-Martin, en point d'orgue à toutes ces explications passionnantes que vous venez d'offrir aux auditeurs de Canal Académie, nous pouvons dire que cet ouvrage, paru aux éditions du Cerf en coédition avec la Réunion des musées nationaux, « La Bible de Jérusalem, 20 siècles d'art », cet ouvrage célèbre la convergence, comme vous venez de nous l'expliquer, entre le sacré et le profane, entre l'écrit et l'image, un mariage, une harmonie somptueuse entre l'écriture et l'art, une approche renouvelée d'un livre de référence pour les historiens de l'art et des religions, mais aussi pour nous tous, pour le grand public, les passionnés et tous les amateurs de l'écriture et de l'art, n'est-ce pas ?
Merci.
Merci de votre participation à cette émission. Merci Isabelle Saint-Martin.